Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Clotilde Saye au micro de Canal M. Une nouvelle fois, c'est l'émission des livres plein les oreilles. Et des livres, on va vous en mettre effectivement plein les oreilles, plein de beaux et de bons titres à vous proposer. Aussi, toutes sortes de solutions au fil des semaines qui s'accumulent pour vous permettre d'aller peut-être élargir votre catalogue personnel. Aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir André Vincent, on va recevoir André E. à Michaud et Serge Bradet en seconde partie. Et sans plus tarder, parce qu'il est déjà au bout du fil, je voudrais me tourner, virtuellement en tout cas, vers André Vincent. Bonjour André.
Bonjour Clotilde, vous allez bien?
Oui, je vais bien, vraiment, vraiment, vraiment. C'est une Clotilde en forme qui vous parle et c'est tant mieux. Les soucis de tout et tout ça et de grippe et de tout ce dont nous avons été atteints les uns et les autres sont derrière moi en principe, tout va bien.
Et le printemps approche aussi.
Oui! Oui, 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 absolument. Alors, justement, en ce 1er mars, puisque l'émission sera diffusée le 1er mars et tout au long de la semaine qui va suivre, vous nous arrivez une nouvelle fois, je dirais, parce que vous êtes un féru d'histoire, hein, vous êtes un passionné d'histoire, et vous nous arrivez une nouvelle fois avec une proposition historique.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un triptyque, en fait, mm-hmm. sur la guerre de 100 ans. Donc, on va retourner assez loin dans le passé pour parler de trois ouvrages de Michel Peyramore.
Oui, qu'on écrit, je vais tout de suite l'épeler pour les auditeurs, Peyramaur. Voilà.
C'est bien ça. Michel Peyramore, qui est un auteur que j'aime bien, dont nous avons plusieurs des titres, d'ailleurs, disponibles dans les collections du Service québécois du livre adapté. Mm-hmm. Mais l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui n'est pas disponible au SQLA. Je pourrais vous en dire un petit peu plus long là-dessus, voir comment des gens pourraient se le procurer.
D'accord.
Donc, ce triptyque, comme je l'ai dit, qui s'intitule « La lumière et la boue », ça fait toute la guerre de 100 ans, rien que ça. Donc, ça commence au moment de la bataille de Crécy en France.
Oui.
Ça va être une défaite des Français. Les Français perdaient beaucoup, d'ailleurs, pendant cette guerre de 100 ans.
Oui, c'est comme aux Jeux olympiques. Non, excusez-moi.
Et donc, le roi Édouard Ier, Édouard III, plutôt, oui. Je me corrige, d'Angleterre, prétend avoir des droits à la succession de la couronne de France de par sa mère Isabelle, qui était la fille de Philippe IV le Bel. Alors, on est en pleine guerre dynastique.
Oui.
Et tout au long des trois tombes, on va voir l'évolution de cette guerre-là à partir de autour de 1347 jusqu'au milieu du 15e siècle. Et ce qui est intéressant, Michel Peyramore fait bien sûr une belle couverture historique, mm-hmm. mais comme il le dit si bien lui-même, l'histoire, c'est pas juste l'affaire des personnages qu'on connaît bien, des gens célèbres, mais c'est avant tout, et malheureusement aussi, celle des gens plus humbles, paysans
oui,
et soldats,
oui.
et qui vont souffrir beaucoup pendant ouais. cette période-là. Et les personnages fictifs de l'ouvrage illustrent bien cette vie-là. Donc, on va suivre, toute l'évolution d'une famille à partir d'un officier anglais
oui.
qui s'appelle David Blake. Et on va voir plus tard, dans le deuxième tome, son fils, puis plus tard, dans le troisième, le petit-fils.
Mais je trouve que c'est une bonne idée, André. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que parfois, surtout, je pense ici, au Québec ou que ce soit partout dans le monde, quand on ne connaît pas bien l'histoire de France en tant que telle, ce qui est d'ailleurs mon cas, je peux vous le dire, lorsque tout d'un coup, on amène comme ça des personnages qui pourraient être vous et nous à cette époque-là, ça nous permet peut-être de mieux comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants, tout ça. Qu'en pensez-vous?
Absolument, et ça nous fait réaliser aussi, et c'est ça l'intérêt de l'histoire, de peut-être de voir combien aujourd'hui, au 21e siècle, malgré tout ce qui se passe de malheureux sur la planète, jusqu'à quel point on est chanceux quand même, ouais. Parce que eux, là, à cette époque-là, ils ont goûté à tout, ouais. Surtout le peuple, les paysans, les soldats, ouais. Ils ont goûté aux guerres, à la peste, à la famine, et c'est ce qu'on ouais. voit tout au long de cet ouvrage, qui est pas facile, c'est vraiment dur, il y a de la violence, mais il y a de très belles pages d'amour, ouais. L'amour de cette période-là. Et à part de voir le prince noir qui a détruit une bonne partie de la France, qui brûlait les villages et tout ça, on va voir la bataille donc de Poitiers après celle de Crécy, puis plus tard Azincourt. Mais Dieu merci, les Français vont gagner en bout de ligne cette guerre.
Sans
les Anglais. Grâce à, vous avez deviné qui, grâce à Jeanne d'Arc, qui à Orléans va repousser pour une première fois les Anglais.
Va bouter les Anglais hors de France.
Exactement.
Comme on disait à l'époque.
Et ce qui est intéressant, on voyage beaucoup, on se promène surtout en France, mais également en Angleterre, en Irlande, il y a même un épisode du côté de la Bulgarie. Mais ça se déroule beaucoup dans le sud-ouest de la France, notamment dans la région de Bordeaux, qui était à l'époque et pendant quelques centaines d'années française. Anglaise, plutôt, jusqu'au moment où, finalement, après la bataille finale, non loin de Bordeaux, à Castillon, ben, les Français vont prendre le dessus et Bordeaux va vraiment devenir pour toujours une ville et une région française.
Alors, guerre de trône, guerre de religion, évidemment.
Non. Pas à l'époque.
Pas à l'époque?
On parle pas beaucoup. Les guerres de religion vont surtout survenir au moment de la Renaissance, d'une guerre à l'autre, mais à l'époque, c'est davantage
des
guerres dynastiques. Bien sûr, il y a eu, mais c'est pas couvert, c'est un petit peu juste avant, mais il y a eu quand même les guerres contre les Albigeois ou les Cathares, si on préfère. Mmh. Il y a eu de ça, mais c'est pas ce qui est couvert pendant cet épisode de la guerre de Cent Ans.
OK.
Donc, je vous rappelle le titre, Quand surgira l'étoile absente, qui est le premier tome, qui est dans les années 1300 jusqu'à la fin de ce siècle-là. Ensuite, on va parler... On va parler de l'Empire des fous, parce que les rois étaient un peu fous à l'époque, quelques-uns en tout cas.
Ça copulait beaucoup entre...
Il y avait quand même la question de d'hérédité. Là, ils ne tenaient pas compte de ça beaucoup
à
l'époque. Et là, on va jusqu'à la bataille d'Azincourt. Et ensuite, dans le dernier tome... qui s'appelle Les Roses de Fer, ben ça va être Jeanne d'Arc. Ça va être le début. En même temps, ça va annoncer la guerre des deux roses en Angleterre.
Bon. Alors, et on rappelle que la trilogie, en tant que telle, s'appelle La Lumière et la Boue. Juste avant que vous nous parliez peut-être de la façon d'aller emprunter ça ailleurs, à l'extérieur de nos frontières, juste peut-être un tout petit extrait que j'ai trouvé via Babelio, qui est un site que j'utilise beaucoup. Pour préparer cette émission-là. Et le petit extrait, justement, il y est question de la guerre et de la violence en tant que telle, et on s'aperçoit que c'est très bien écrit. Nous sommes sur la plage de Saint-Vaast-la-Hougue. Il a compris qu'un sentiment de honte empêche les hommes de regarder la guerre en face, que l'horreur est indécence. C'est là qu'il a tué son premier ennemi d'une flèche, dans le dos. Il l'a regardé avec étonnement courir quelques pas en battant des bras comme un coq de bruyère touché à mort. « Il est à toi », lui a soufflé le vieux Flint. « Achève-le et prends-lui son équipement. » Il a achevé l'homme en évitant de regarder son visage et il l'a volé. La honte, l'écœurement, c'est après qu'ils sont venus. De même lorsqu'il a pris cette fille de Valogne, une adolescente blottie derrière le comptoir d'un coutelier qui rongeait avec une expression de terreur les billettes de buis de son collier. Mais elle, il avait refusé de la tuer. Alors, c'est là qu'on sent à la fois toute la partie historique et toute la partie romancée de ces gens qui font face à des drames humains quotidiennement, perpétuellement. Alors, parlons maintenant...
De très belles de très belles pages quand même là-dedans, là, malgré la violence,
oui,
de très belles pages d'amour et de sentiments humains et d'amitié.
Mm-hmm. D'accord.
Et cet ouvrage-là, je l'ai lu parce que j'ai la chance d'être abonné à la bibliothèque de l'association Valentin Ahuy, la médiathèque de l'association Valentin Ahuy en France. Je vais vous donner d'ailleurs les coordonnées.
Les coordonnées, s'il vous plaît.
eole.avh.asso.fr.
Mais vous savez quoi? Parce que, justement, moi aussi, en prévision de cette émission, même si on a déjà parlé de cette association ici à l'émission des Livres plein les oreilles, je suis allée voir, et lorsqu'on fait AVH, simplement AVH, c'est le quatrième site qui sort sur la page Internet. Alors, j'imagine que quand vous allez sur Internet, parce que je sais que les non-voyants écoutent Internet, mais on va donc très rapidement vous donner l'association AVH. Comme ça, c'est simple.
Et la procédure pour s'y abonner, parce que bien sûr, il y a une procédure à suivre.
Oui.
Il va falloir fournir une attestation de la déficience visuelle. Et ce qui m'amène vite à vous signaler qu'il serait très intéressant, puis là, je pense que ceux qui nous écoutent pourraient en faire la demande, de pousser un peu sur les décideurs de BANQ pour qu'ils établissent des ententes de partenariat avec la France, et il y aurait possibilité éventuellement d'éviter cette procédure-là grâce à des ententes de collaboration. Par exemple, si tous les abonnés du SQLA pouvaient systématiquement avoir accès aux collections de l'association Valentin Ahuy et d'autres bibliothèques en Europe, ça serait pas mal intéressant pour tout le monde.
Vous savez que... oui, absolument. Et c'est une question que je vais poser parce que maintenant, on a des chroniques une fois par mois avec des gens de CAEB et des gens du SQLA. Et c'est quelque chose que je vais leur demander. C'est à quand une éventuelle entente avec des associations bibliothécaires adaptées, audio-adaptées, européennes. Pourquoi pas? Ce serait effectivement une magnifique
idée. Voilà. Et plus seront nombreux les usagers à le demander, bien, plus on a de chances que ça se passe un peu plus rapidement.
Absolument. Merci beaucoup, André. C'est une très bonne suggestion que nous en avons déjà d'ailleurs parlé encore aussi à cette émission, mais c'est important qu'il y en ait d'autres qui en parlent et en reparlent encore. Merci beaucoup, André.
C'est toujours un plaisir de vous parler.
Moi de même. André Vincent, merci beaucoup. Et je suis à nouveau au téléphone, et pour une raison précise. Vous savez, parfois, il y a des gens qui habitent quand même assez loin, et les faire venir d'aussi loin pour un petit 10 minutes de radio, on peut faire ça par téléphone et ça nous fait plaisir. Bonjour, Madame Michaud.
Bonjour, Madame Seille.
Alors, je vous appelle comment, Madame Michaud? Andrea, Heather, Beverly? Je ne sais plus.
C'est au choix.
Effectivement. Andrea Michaud, je suis vraiment ravie de vous accueillir à cette émission-là. Il y a des gens qui font dans le polar que je qualifierais style couverture brute, avec un tissu. Avec un tissu un peu brut. C'est ça qui est ça. Vous, je dirais que vous faites plutôt dans la dentelle. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne expression faite dans un polar de dentelle? Ce qui ne veut pas dire qu'il est léger, ce qui veut dire que c'est tissé serré, avec soin, c'est...
Oui, c'est une expression qui est très flatteuse, en effet. Je dirais que c'est une dentelle qui parfois, quand même, s'effiloche ou qui peut être tachée par quelques gouttes de sang. Mais en effet, je mets beaucoup l'accent sur l'écriture. Pour moi, c'est très important d'excéder le simple récit, la narration d'une histoire de A à Z pour créer des atmosphères.
Absolument. Et c'est exactement ce que j'ai apprécié dans ce livre qui, je vais le dire, qui s'appelle « Route secondaire ». Je précise plusieurs choses à nos auditeurs. Vous savez que si vous êtes en ce moment à cette émission des livres plein les oreilles, Andrea, c'est parce que le livre a été lu en version adaptée pour les personnes qui présentent une déficience visuelle totale ou partielle. Le livre est en commande donc au moment où l'émission est diffusée, le 1er mars. Écoutez, c'est une question de jours avant qu'il soit disponible, ce livre « Route secondaire » dont nous allons parler dès maintenant. C'est un texte, je voudrais aussi préciser, qui peut un peu dérouter au début, mais qu'il faut à tout prix poursuivre. le lecteur, vous qui nous écoutez, devient vous, Madame Michaud, vous, l'auteur, qui elle-même ne sait plus à un moment donné si elle n'est pas cette Heather Beverly, ou en tout cas... Et d'ailleurs, un petit extrait, page 116, et vous me direz si c'est assez bien résumé ou pas, évidemment très très succinctement. Hein. Mais en page 116 ici, vous écrivez « Je suis sous la douche depuis une dizaine de minutes à dépenser inutilement des litres d'eau quand P frappe à la porte de la salle de bain pour me demander si tout va bien. Non, tout ne va pas bien. » Je m'appelle Beverly Simmons, je m'appelle Andrea, je m'appelle Heather Thorne et je suis morte il y a 35 ans. Ça déroute quand même, hein?
Oui, enfin bon, je ne dirais pas que ça résume le roman parce non. que c'est un roman assez difficile à résumer.
Oui, vous avez raison.
Il s'y passe beaucoup de choses, mais en même temps, ça donne une idée du ton, ça oui. donne une idée de l'interrogation qui est à la base du récit, c'est-à-dire que l'écrivaine Andrea Michaud, qui devient ici un personnage, se pose des questions par rapport à une autre femme, bon, qu'elle a rencontrée tout à fait par hasard, et se demande si cette femme est son double, finalement.
Ouais.
Et bon, il y a un problème d'identité qui se pose à un certain moment, bon, qui est André, qui est Heather, l'auteur ne le sait plus, et le personnage non plus. Mais enfin, tout ça va s'éclaircir. Là. Je veux pas,
oui, absolument. Non, mais c'est exact. Oui, mais et ne vous inquiétez pas, je voulais aussi à tout prix leur dire, c'est pour ça que je leur disais continuez, parce que d'un paragraphe à l'autre, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et tout d'un coup, on retombe dans le questionnement. Et à nouveau, tout s'éclaire. En tout cas, c'est ce qui est certain, c'est que, et c'est ce que j'ai trouvé, moi, vraiment fascinant dans ce livre-là, c'est qu'on suit aussi toute la démarche créatrice qui vous amène, vous, auteur, à écrire des romans, et là, dans ce cas-ci, un polar, un roman policier, ben, quoique, j'aime pas ça pour définir votre livre, mais en tout cas, avec une intrigue, avec un peu de sang à l'occasion, avec des personnages, je voudrais lire, à un moment donné, on est au tout début, en fait, hein, du livre. Je dois m'appeler Heather, elle doit s'appeler Heather. Ces phrases que je me répète depuis des mois sans parvenir à en fixer le sens ont peu à peu perdu leur limpidité première pour devenir une obsession. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, Madame Michaud, votre livre m'a obsédée. C'est un livre obsédant.
Bon, ben enfin, c'est je vais prendre ça comme
un compliment.
Un gage de réussite, comme un
s'il
compliment.
Vous plaît.
oui, parce que l'obsession, l'écrivaine elle-même est complètement obsédée par elle, par ce personnage. Elle veut comprendre d'où elle vient, parce que contrairement à ce qui peut se passer dans beaucoup de romans, on ne sait pas d'où arrive Heather, quel est son passé. On sait qu'elle arrive d'un passé trouble, mais l'auteur va essayer de déterminer quel drame a pu marquer cette période de sa vie. Et quand vous parlez de polar, bon, moi aussi, je
n'ai pas de
problème
ça.
À ce qu'on parle de polar,
bien
mais
sûr.
C'est un polar très, très atypique. C'est-à-dire que c'est ici l'auteur qui mène l'enquête.
Il
n'y a pas d'intervention de policiers.
Non, non.
Bon, c'est l'auteur qui mène l'enquête pour essayer justement de déterminer d'où vient ce personnage et où il s'en va et qu'est-ce qu'elle va faire avec.
D'ailleurs, c'est plus une quête qu'une enquête. Hein?
Exactement. C'est une quête, mais qu'on peut voir un peu comme une enquête puisqu'elle a tout fait. À un moment donné, les événements se précipitent et on va arriver à une conclusion là, après une course dans la forêt et dans la tempête.
Voilà. Alors la forêt, la nature, le végétal, l'animal, tout ça fait partie intrinsèquement, ce sont des personnages aussi, de votre livre. Et ce n'est pas le seul livre d'ailleurs, parce que déjà dans Bondré, qui est d'ailleurs qu'on retrouve dans ce livre-là, la forêt était également très présente.
Hein. Pour moi, c'est... Je dis toujours que j'écris là où je me sens bien. Et je me sens bien près de la forêt, pas nécessairement en pleine forêt. Là, j'habite pas au fond des bois, mais j'habite en campagne. Et c'est pas innocent. Si j'habite en campagne, c'est parce que c'est la nature qui m'inspire. C'est tout ce qu'on peut, tout ce que la forêt, toute l'angoisse finalement que la forêt peut susciter, à côté de la beauté aussi. Qu'elle nous offre. Donc, pour moi, je sais qu'on cite souvent beaucoup de polars en ville, mais je trouve que la forêt est très, très riche pour créer des intrigues, créer des mystères. Et j'aime beaucoup m'enfoncer.
Oui, non, je comprends.
Avec les personnages.
Oui, exactement. Alors donc, on l'a dit, polar, oui, certes. Polar littéraire, à un moment donné, hein. On avait écrit ça sur vous dans la presse, je ne sais plus sous quelle plume. Et je trouve que le terme de polar littéraire, je trouve ça très beau, surtout que... Quelle écriture, Andrea. Vraiment, j'exhorte les auditeurs à faire connaissance avec votre écriture. Tiens, d'ailleurs, je ne résiste pas. On est en page 79. Et là, on quitte un petit peu le polar. J'espère que je ne vais pas me tromper. C'est tout le chapitre... Ah, je me suis trompée de page, je pense. C'est tout le chapitre... Voilà, ici, page 81. Mm-hmm. Et comment ne pas penser à sa propre mort, aux conneries qu'on s'inflige jour après jour, aussi con que la veille, à tout ce temps perdu entre deux bouffées d'air frais, entre deux réels moments de plénitude. Je ne sais pas, et j'abdique, écrivez-vous. Je m'ordonne d'arrêter, je me crie, ça suffit, tais-toi, ça ne donne rien, tais-toi. La mort va venir quand même, la mort qui est peut-être une délivrance, mais je m'en fous. Je ne veux pas être délivré du vent. J'aime tellement cette phrase-là. Je ne veux pas être délivré du vent, je refuse que le deuxième chat soit délivré de l'été que nous espérons pour lui, parce qu'il y a ces trois chats. Quelle poésie là-dedans, les trois chats à chaque fenêtre, à chaque étage. Et lorsqu'un chat meurt, il y a la maison qui penche. C'est magnifique, Andrea. Est-ce que vous avez écrit autre chose que des polars, parfois?
Oui, parce qu'on m'a vite associée à une auteure de polars, alors que mes premiers romans ne sont pas vraiment des polars. Il y a toujours des mystères qui se déroulent dans mes romans, mais je dirais que j'ai écrit seulement deux véritables polars, même si je les écris à ma façon, que je revisite les codes du genre. Mais, et puis bon, ça ne me gêne pas qu'on m'associe à une écrivaine de polar, mais en fait, le polar est un genre parmi d'autres.
Oui, c'est ça.
C'est plutôt le mystère qui m'intéresse.
Voilà.
C'est plutôt la folie. Quel type de folie, quel type de pensée peuvent pousser des hommes ou des femmes à poser des gestes irréversibles, des gestes très violents parfois.
Oui. Alors, je voudrais revenir sur le premier des polars, donc, qui était Bondré, que vous avez sorti en 2014 et pour lequel vous avez reçu une multitude de prix. Mm-hmm. Prix Arthur Ellis du roman policier en langue française, le prix de Saint-Pacôme du roman policier, le prix de l'œuvre de l'année, ça c'est en Estrie, le prix des lecteurs Quai du Polar 20 minutes à Lyon. En tout cas, vous avez reçu vraiment énormément de prix pour Bondré qu'on retrouve, et ça je le dis pour les auditeurs, non pas via SQLA, mais via INCA, donc par le CAEB.
Et j'ajouterais que j'ai aussi remporté, que Bondré a aussi remporté le prix du gouverneur général du Canada.
Alors j'y arrivais, ainsi que le ravissement, dont je voudrais que vous nous parliez un peu, parce que le ravissement et Bondré, donc on se scie en commun d'avoir, pour ces deux livres-là, vous avez remporté, comme vous venez de le dire, le prix littéraire du gouverneur général. Mm-hmm. Le ravissement, ça n'a rien à voir.
Le ravissement, bon, c'est encore un roman dans lequel il y a un mystère qu'un policier va essayer d'élucider, mais qui ne se présente pas du tout sous la forme d'un polar. Il y a deux enfants, c'est-à-dire que dans un lieu appelé les Bois Noirs, il y a des enfants qui disparaissent.
Encore des bois, encore la forêt.
Encore la forêt, qui disparaissent tous les 10 ans. Ouais. Et il y a des gens qui commencent à s'interroger sur ces disparitions mystérieuses. Ouais. Et un policier va se rendre sur place pour enquêter, pour essayer de résoudre le mystère. Mais bon, ça ne se présente pas comme un polar, c'est plus un roman qui flirte un peu avec le fantastique, mm-hmm. si on veut, avec les esprits de la forêt, avec toutes ces choses impalpables qui peuvent influencer le comportement des gens.
Après le ravissement, je voudrais aussi qu'on parle d'autres livres qui sont disponibles en audio adapté. Il y a par exemple Rivière tremblante. Mm-hmm. De quoi s'agit-il?
Rivière tremblante, il s'agit de l'histoire de deux personnes. Enfin, il y a deux histoires qui se déroulent parallèlement. La première concerne un homme dont la petite fille a disparu en sortant de l'école. Et la deuxième concerne une femme dont le petit ami, quand elle était enfant, a disparu alors qu'ils jouaient tous les deux près d'une rivière. Donc, le roman porte sur la disparition, sur la perte, sur la difficulté qu'il peut y avoir à survivre au départ ou à la disparition de quelqu'un. Comment il peut être difficile de faire son deuil quand on n'a pas de corps sur lequel se pencher, quand il n'y a pas de corps qu'on puisse pleurer parce que les deux personnages, jusqu'à la fin, demeurent dans l'ignorance. Mmh. Ils ne savent pas ce qui est arrivé pour l'un à sa fille, pour l'autre à son ami. Et bon, ces deux personnages vont finir par se rencontrer et par un peu, s'épauler dans le deuil.
Oui, oui, oui. Et il y a aussi, parce que vraiment, vous en avez écrit plusieurs, il y a le pendu de Trempe. Là, on pourrait penser à un polar, mais c'en est pas un.
Non, ce n'est pas un. Le pendu de Trempe est un roman très sombre, je dois le dire, mais okay. Pour lequel j'ai un profond attachement. Ah. Là encore, c'est l'histoire d'un homme qui retourne dans son village natal plusieurs années après être parti, parce que il y a quelque chose de non résolu dans son enfance, quelque chose qu'il pense pouvoir résoudre, en retournant sur place. Donc c'est un livre très noir qui parle entre autres de foi, de croyance, et là encore, de quelle façon la foi peut pousser des gens à des gestes extrêmes. Je ne parle pas ici nécessairement de terrorisme, pas du
non,
tout.
Non, bien sûr.
Mais comment le rapport qu'on peut avoir avec Dieu ou avec l'idée qu'on se fait de Dieu peut nous pousser à des comportements parfois très, très...
Oui, c'est ça, marginal.
Irrépréhensible. Oui.
Irrépréhensible. Andréa Michaud, j'ai envie de lire un autre extrait du livre Route secondaire que j'ai encore sous les yeux. Et il faut que je vous avoue quelque chose, parce que ça, je l'ai fait exprès et j'ai vraiment eu du mal. J'ai lâché le livre 40 pages avant la fin, parce que je voulais tellement pas... D'abord, j'ai hâte, évidemment, de connaître la fin, mais je ne voulais tellement pas la connaître avant de vous parler, pour être sûre de rien déflorer, parce que sinon, je me connais, vous savez comment on est, moi, j'ai la langue bien pendue et ça aurait été dommage. Vous savez, ce que j'aime, c'est dans ce livre « Route secondaire », Andréa Michaud, c'est aussi, justement, quand on pense à votre place, à quand vous êtes à l'écriture, quand vous avez cette plume à la main qui parfois, d'ailleurs, vous dites se tord, quand vous avez... mais c'est pas juste l'éloge ou pas, ou la peur de la page blanche, hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Et alors, il y a ici ce petit passage en page 147 que j'aime beaucoup, où vous écrivez « Un personnage n'existe qu'à partir du moment où il se glisse dans une phrase. Et pourtant... J'ignore encore si Heather Waverley Thorne répond à ce schéma, si elle a commencé à exister quand sa Buick est apparue au sommet de la côte du quatrième rang, ou si son passé échappe à la fiction et de ce fait m'échappe aussi. » Ah, c'est toute la complexité et à la fois l'extrême simplicité, parce qu'on finit par tout comprendre, du moins j'en suis convaincue, que nous propose Andréa Michaud avec Route secondaire. Andréa Michaud, bravo, bravo pour tous ces livres, bravo pour cette écriture, parce que, encore une fois, on ne se plonge pas dans l'écriture d'Andréa Michaud comme dans un simple polar, on parle vraiment de littérature et c'est du grand art en ce qui vous concerne. Merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie et puis on a bien hâte au prochain.
Moi aussi.
Alors travaillez bien, hein? On compte sur vous, Andréa Michaud. Au revoir, au plaisir. Voilà, c'était une rencontre avec Andréa Michaud. C'est Clotilde Seille qui anime pour vous des livres pleins les oreilles. On se retrouve dans quelques minutes. Des livres pleins les oreilles, la suite. J'espère que vous étiez là en première partie alors que je faisais une entrevue avec Andréa Michaud, une entrevue téléphonique au sujet de beaucoup de ces livres qui sont disponibles via le SQLA ou encore Inca. Madame Michaud qui fait dans le polar entre autres, mais dans le polar qu'on qualifierait de littéraire, autrement dit l'écriture de cette femme-là, ça va bien au-delà de l'enquête policière typique, mais alors vraiment bien au-delà. Et je voudrais, pour vous témoigner de cette écriture-là et de ce livre-là, vous en lire, comme à chaque semaine, un extrait. Nous sommes au tout début du livre, en page 27. Un livre où, au début, on a l'impression qu'on ne va rien comprendre, mais très rapidement, les choses s'éclairent et vraiment, ça vaut le coup de s'accrocher à quelques pages qui peuvent nous sembler un petit peu opaques pour voir le bleu au milieu de tous ces nuages gris qui s'amoncellent autour de notre lecture. Alors voici ce que ça donne, extrait de Route secondaire, qui est en commande en ce moment par le SQLA et qui, au moment où je diffuse cette émission-là, à partir du 1er mars, sera d'ailleurs sans doute disponible, ou en tout cas, il le sera dans pas longtemps. Heather Thorne ne doit sa survie qu'à cette logique voulant qu'une héroïne ne meure pas avant le véritable début de son histoire. Elle me la doit à moi. au besoin que j'ai d'elle pour continuer à inventer des arbres et des femmes avançant entre ces arbres, des personnages dont le destin se conclura dans l'encre noire, figeant l'ennui des jours de froid. J'écris ces phrases, écrit Andrea Michaud, pendant qu'une tempête fait rage et recouvre lentement les sentiers que j'ai creusés avec paix dans la neige. Avant la tombée de la nuit, les sentiers auront disparu. On en devinera le tracé ici et là qu'à certaines courbes polies par le vent, qu'à certaines lames de neige durcies s'accrochant à leur bord. La colline du quatrième rang est également couverte de neige, mais là où se trouve Heatherthorn, c'est encore l'automne, c'est encore la nuit, et le chasseur se tient toujours devant elle, sa lampe braquée sur le visage de cette femme qui vient de se rappeler ce qu'implique d'être femme. Pas un mot n'a été échangé entre le chasseur et Heather. Pas une nouvelle feuille n'a touché le sol, pas un geste n'a été posé. L'homme et Heather attendent l'affrontement, dirait-on, quand en réalité, ils n'attendent rien. Leur temps s'est arrêté, un temps au cœur duquel ils ne vieillissent pas, ne pensent pas, ne respirent pas. Un tableau peint par une immortelle nuit d'automne. À partir de ce tableau, 1000 scénarios sont possibles. Je devrais n'en choisir qu'un et suivre l'un des multiples méandres où coulera l'encre noire. Selon le tracé du méandre, il est possible que je doive rebrousser chemin pour retourner aux origines de la forêt dans laquelle Heather ne respire pas. Je crains toutefois que l'encre stagne et imbibe les bords cornés de la page, m'obligeant à précipiter les événements et à modifier l'angle du récit en vue de transporter Heather dans la languette, où je n'aurai d'autre choix que de lui confier le premier rôle de ce drame d'horreur dont j'ai jeté les bases l'hiver dernier, alors que je passais mes dimanches après-midi à arpenter cette route isolée et ne savais pas que je m'appellerais bientôt Heather. Dans l'une des scènes de ce drame inachevé, une femme, dont je ne pouvais percevoir le visage, marchait devant moi. Une femme à laquelle il me serait maintenant impossible de donner un autre nom que le mien, Heather. Sa démarche était vive et ses longs cheveux blonds prolongeaient sa tuque rouge en glissant sur son dos. J'en entendais le léger chuintement sur la toile de son manteau, alternant avec le crissement de ses bottes sur la neige rendue luisante par le passage de véhicules dont les chenilles avaient creusé un damier inégal, un réseau de stries entrelacées, la forçant parfois à ralentir le pas pour ne pas perdre pied sur la luisance. Puis, deux motoneigistes étaient arrivés, qui ne savaient pas qu'ils croiseraient une jeune femme sur la piste et qu'ils perdraient la tête en la voyant, qu'ils lui arracheraient son manteau de toile et devraient vivre avec les contre-coups de cette folie jusqu'à la fin de leur jour, sans personne à qui avouer leur crime, à qui raconter leur cauchemar, sauf cet autre homme, ce compagnon à l'origine des cauchemars, qu'il se prendrait à détester et ne pourrait plus supporter qu'en ces soirs désœuvrés, où l'alcool les réunirait dans la molle vulgarité de leurs blagues éculées ou, au contraire, dans l'impétueuse nécessité des insultes que leur arracherait leur passé coupable. Le scénario classique, celui où il ne reste de la jeune femme que quelques traces de sang sur la neige, celui où l'on ne voit plus que les bottes des motoneigistes recouvrant rageusement ses traces en se demandant ce qui s'est produit, tabarnak. « Gilles, dis-moi que ça s'est passé, Carlis, dis-moi qu'on n'a pas fait ça. » C'est le type de situation où je pourrais éliminer Heather sans que l'histoire s'effondre, puisque celle-ci se poursuivrait dans son sillage. Les motoneigistes prendraient le relais, puis d'autres personnages qui se lanceraient à la recherche de Heather, partis marcher alors que s'annonçait une tempête, et qui n'étaient pas rentrés pour le souper, pas rentrés alors que les aiguilles de l'horloge se jetaient au cœur de la nuit, en amplifiant la trop régulière sension du temps. La question qui s'ensuit peut être fatale pour Heatherthorn, car ai-je vraiment besoin d'elle? Ai-je vraiment de Heather vivante? Alors, j'espère que vous l'aurez compris, mais c'est l'auteur qui parle. Elle est dans les affres de l'écriture. Est-ce que je crée tel et tel personnage? Est-ce que je la mets dans telle et telle situation? Passionnant, passionnant, passionnant ce bouquin « Route secondaire » de Andrea Michaud. Il nous est revenu. Le revoilà, le revoici. Serge Bradet, bonjour.
Bonjour, avec grand plaisir.
Avec grand plaisir, toujours.
Toujours grand plaisir d'être là.
Et toujours grand plaisir d'entendre votre belle voix grave. Oh. Vous savez qu'on on est un petit peu dans l'histoire aujourd'hui, parce qu'il y a André Vincent qui est venu nous parler au début de cette émission de la guerre de 100 ans et d'une trilogie, ma foi, qui a l'air fort passionnante, qui s'appelle « La lumière et la boue ». Et je suis sûre que vous adoreriez ce bouquin-là. Mais vous ne pourriez pas venir nous en parler parce que André Vincent l'a déjà fait. Par contre, vous nous arrivez aujourd'hui avec un livre. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Oui. Alors, c'est un livre de Jacqueline Kellen. Le diable préfère les saints et les saintes.
Et les saintes, oui. Précisons.
Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de discrimination. Là. Les hommes et les femmes sont égaux. Les deux sont...
Et Kellen, je le dis pour les auditeurs, ça s'écrit K-E-L-E-N.
Ah, c'est un livre aux éditions du Cerf de 200 pages à peu près. Ça se lit assez bien.
Oui.
Et c'est divisé aussi en, en petites sections. Mm-hmm. Parce qu'on parle, je vous en nomme quelques-uns, que j'ai, on va parler du curé d'Ars, de Saint-Martin, Thérèse d'Avila, Padre Pio, Hildegard de Bingen, Saint-François d'Assise, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui ont tous eu affaire aux démons. Oui. Alors, juste un petit mot. Oui, il faut dire que j'ai, préciser que j'ai trouvé sur Internet une entrevue de Jacqueline Kellen.
Intéressant.
Et j'ai pensé, si vous êtes d'accord, de la passer tout à l'heure.
Bien sûr.
Elle explique bien, beaucoup mieux que moi, son livre.
C'est excellent de faire ça. Mais d'ailleurs, vous me donnez une idée, pourquoi parfois ne pas diffuser quelques mots de l'auteur en train d'en parler.
Absolument.
Ça me ferait faire moins de recherches et puis ce serait peut-être plus intéressant, beaucoup plus. D'entendre nos grosses voix.
C'est moi la grosse voix?
Non, c'est la mienne.
Alors, donc, juste pour vous situer un peu, le chemin de sainteté passe par la rencontre avec le démon, évidemment.
Ben oui,
c'est ça.
Bien et le mal.
Le bien et le mal, c'est ça. Ouais. Alors, ermite, moine, monial, mystique, homme et femme, comme on l'a dit, tous ont eu à subir les tentations et les assauts du démon. Alors, c'est leur histoire, leur combat et aussi leur victoire que raconte ce livre de Jacqueline Kellen. Alors, dans tous les saints que je vous ai nommés, évidemment, ce sont de grands saints qui ont témoigné qu'il ne s'agissait ni de superstition populaire, ni d'hallucination, leur rencontre avec le démon. À travers leurs épreuves, ces figures exemplaires, parce que ce sont des exemples pour le monde chrétien, ont aussi indiqué les remèdes puis les armes pour contrer les attaques du démon et triompher de lui. Alors, on est à une époque aujourd'hui où on ne croit plus en Dieu ni au malin. Alors, on voit ça dans des films comme L'Exorciste ou, ou l'autre film se passait à New York là, où la dame était donnait naissance à un démon. J'ai oublié le titre du film, mon Dieu, comment ça s'appelait? Il y a une vingtaine, trentaine d'années, en tout cas. Je sais pas
la seule chose qui me vient, c'est Démons et merveilles, mais
non. Alors, et on rejette aujourd'hui tout phénomène surnaturel. Alors, ça, c'est l'essai de Mme Kellen. C'est un essai érudit et passionnant qui rappelle la réalité de Satan. Alors, Mme Kellen, elle est écrivain. On ne dit pas écrivaine aujourd'hui?
Oui, écrivain. Non, moi, j'aime mieux dire auteur comme ça.
Il
y a peut-être un E, mais sans personne.
Alors, à l'endos du livre, c'est marqué écrivain. Elle a été productrice à France Culture pendant une vingtaine d'années et elle a publié une trentaine de livres consacrés aux grands mythes, aux figures mystiques et à la vie intérieure. Alors, avant d'écouter l'entrevue, juste vous donner également, parce que le malin existe dans toutes les religions.
Oui.
Il n'y a aucune religion qui y échappe. Parce que les religions, c'est le bien et le mal.
Mais oui.
Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun diable que je vais vous nommer qui a un prénom de Clotilde.
Voyons donc.
Je vous adore, Clotilde.
Oh, voyons, ça. On voit avec une petite fourche, moi.
Alors, le malin est appelé Ahriman dans la Perse mazdéenne, Shatan dans le judaïsme, Bélial ou Belzéboul chez les Cananéens, Ibis dans l'islam, le Démiurge par les Manichéens, Mara dans le bouddhisme, Loki dans l'ancienne Scandinavie. Les démons reçoivent également un nom tel Asmodée, Lilith, Samaël dans l'Ancien Testament. Et dans la tradition chrétienne, le diable est le plus souvent dénommé Satan, d'après le terme hébreu, mais on l'appelle encore l'ennemi, le mauvais, l'adversaire, l'accusateur, le malin, le tentateur, le maudit, le trompeur, le menteur, l'esprit du mal, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, l'esprit immonde, etc. Sans oublier Lucifer qui brille d'un éclat mensonger. Alors, je pense qu'on va laisser maintenant la place à Mme Kellen.
Oui, qui nous parle de son livre, c'est
ça? De son livre, exactement.
D'accord.
Oui.
Alors, on écoute Mme Kellen.
Le sujet profond, urgent, surtout à notre époque, c'est le combat spirituel. Et à fréquenter les écrits des saints, des mystiques chrétiens, je connais assez bien, je m'apercevais qu'à un moment ou un autre de leur chemin, et presque jusqu'au bout d'ailleurs, il y avait toujours rencontres diaboliques, tentations démoniaques, et ce combat-là, ces rencontres-là, ne sont pas abstraites et métaphoriques. Ce sont des intimidations, des coups, des étouffements, des attaques vraiment très impressionnantes. Et lorsqu'on sait que les Saint-François d'Assise, Saint-Thérèse d'Avila, Padre Pio n'étaient pas ni des fous pris d'hallucinations, c'était des personnes solides et puis humbles également et discrètes, on se dit il y a quand même un genre de rencontre irrémédiable auquel on ne coupe pas dès que l'on s'avance sur le chemin de sainteté. Et beaucoup, alors je n'ai pas cité le curé d'Ars dans cette liste sans fin, mais le curé d'Ars était très clair, il disait lorsque une âme veut sortir de l'état du péché ou au contraire lorsqu'elle est en état de grâce, d'évidence, le diable, qu'il appelait le grappin, le diable se met en travers du chemin. Le diable, c'est le trompeur, l'adversaire, le prince de ce monde, l'esprit des ténèbres, et bien sûr, le premier à l'avoir affronté, c'est tout de même Jésus. Et nous avons dans les évangiles, moi j'étais aussi frappée de voir que Jésus ne cessait peut-être certes d'enseigner, mais de guérir, c'est-à-dire avant tout de chasser les démons des personnes, que ce soit des hommes et des femmes. Donc j'ai bien conscience que parler du diable aujourd'hui et de cette façon concrète, précise, alors pas spécialement le diable cornu, velu, avec une fourche, etc., mais parler du diable paraît obsolète, voire étrange. De fait, c'est une réalité, c'est la réalité du mal, et c'est donc ce combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas simplement gouverner ses passions, apaiser ses instincts mauvais, ou son ambition, son avidité, etc. Ça, c'est, j'allais dire, la moindre des choses sur un chemin de sagesse. Un point du chemin, c'est en effet le grand ennemi qu'il s'agit d'affronter pour faire triompher le mal. Pas pour soi, le combat spirituel n'est pas pour soi, mais pour faire advenir le royaume de Dieu.
Fort intéressant.
Oui,
oui, évidemment. Alors, je voudrais rappeler peut-être aux gens qui viennent juste de se joindre à nous, parce que c'est un petit peu inhabituel dans cette émission, et c'est très bien que vous nous l'ayez proposé, Serge Bradet. On entendait l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le diable préfère les saints ». Elle s'appelle Jacqueline Kellen, K-E-L-E-N, et donc elle nous parlait de la teneur de ce texte qui nous est proposé aujourd'hui par Serge Bradet. Oui, oui, oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, Serge?
Oui, ben s'il y a une minute plus, c'est que elle l'a dit dans l'entrevue.
Quelques secondes ou deux.
Quelques secondes. Okay. Ben, parce que c'est ça, moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est que l'image qu'on a de Satan, c'est avec des cornes,
ben oui,
sabots fourchus, les yeux rougeoyants. Mais ceux qui ont vu Satan, c'est des ermites écrasés de soleil, perturbés par le jeûne, puis la privation de sommeil. Il ne faut pas oublier ça. Alors,
c'est intéressant.
C'est ça. Dans le monde moderne, il n'y a plus guère de place pour la sainteté et son chemin d'épreuve. Seul compte la santé du corps, le bonheur pour tous, puis l'implication dans le tissu social.
Intéressant, parce que c'est vrai que tout ça est quand même très, très hallucinogène comme image. Serge Bradet, c'est toujours régal de vous entendre. Alors, si vous aimez l'histoire et la religion et en savoir encore plus sur le bien et le mal, le bon et le méchant, alors on lit ceci. Ici, c'est une représentation. Là, c'est la représentation d'un gorille ailé avec des grandes dents. Hein? On pourrait dire ça. C'est la page couverture. Et c'est « Le diable préfère les saints », S-A-I-N-T-S, bien sûr, écrit par Jacqueline Kellen et présenté aujourd'hui par Serge Bradet. Merci, Serge. Alors, on quitte les saints, le bien, le mal, et on se dirige en Provence. Et ça, c'est une nouvelle un petit peu triste, en tout cas moi, qui m'a fait triste, c'est la mort de Peter Mayle. Peter Mayle, c'est l'auteur britannique le plus provençal des habitants de la Provence. J'ai trouvé un article qui nous vient de l'AFP, rédigé à Londres, qui nous dit, en parlant de cet écrivain britannique qui était connu pour son best-seller Une année en Provence, je vous le dis, Une année en Provence que j'ai dévoré, qui est un livre qui malheureusement n'est pas disponible ici au Québec, mais qui est disponible via l'AVH, l'association Valentin Ahuy. Si vous faites AVH, vous allez trouver cette association-là. C'est le pendant du SQLA et d'un cas en Europe, et on y trouve des milliers et des milliers de livres. Alors, et il suffit simplement, comme au SQLA, de prouver votre incapacité, votre déficience visuelle pour pouvoir avoir des livres en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, même des livres récents. Alors, les livres de Peter Mayle, ils sont. Cet écrivain britannique, donc connu pour ce best-seller, Une année en Provence, qui est une espèce d'ode à la région française, dont il était tombé, ce monsieur éperdument amoureux. Eh bien, il est décédé relativement jeune, à l'âge de 78 ans. On nous écrit, c'était un message de l'éditeur, « Nous avons l'immense tristesse d'apprendre la mort de Peter Mayle, le plus provincial des écrivains britanniques, auteur majeur chez Neil Éditions, où ont été publiés tous ses romans depuis ce best-seller Une année en Provence. » Il était né à Brighton, au sud de l'Angleterre, en 1939, cet écrivain, qui a publié en 1990 le récit des 12 mois qui ont suivi son déménagement en 1987 de l'Angleterre vers la Provence. Et l'œuvre est un hommage aux couleurs et à l'art de vivre provençaux, qui a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires et qui a été traduit dans 40 langues. Son coup de cœur pour le sud de la France, sa description d'une culture chaleureuse et d'un mode de vie méridional ont incité des milliers de Britanniques, mais aussi des Japonais et des Australiens à suivre ses traces. C'est pas mélant, comme on dit, mais il a tellement connu de succès qu'il a même été obligé de déménager. Parce que tout le monde savait où il habitait, près de Ménerbe, et il était constamment importuné par des touristes qui venaient du monde entier, tellement séduit par la façon dont il avait de parler de la Provence et de cet amour infini pour le pays des cigales et du pastis. Alors, ici, au SQLA, malheureusement, nous n'avons pas une année en Provence, mais je vous ai déjà dit comment aller vous le procurer chez AVH. Vous faites ces trois lettres sur Google et vous allez tomber très rapidement sur le site de l'association Valentin Ahuy. Le résumé de Une année en Provence, ben c'est celui-ci. Installé près de Ménerbe, l'écrivain Peter Mayle a visité les arrière-salles de la Provence. À l'heure où le vin semble plus clair, tracer le portrait d'Amédée, fermier et vigneron, pour qui vous aimez le lapin, signifie généralement « puis-je emprunter le pré du bas pour y planter de la luzerne ?» Écoutez avec le sérieux d'un profane et l'ironie d'un londonien les pourparlers, les mots, les marques d'affection d'un village du Luberon, et finit par comprendre la formule chantante, mais combien mystérieuse, lâchée au milieu des repas, « encore du pain ?» Cette chronique quotidienne et malicieuse a fait le tour du monde et elle a connu en France, mais partout dans le monde, un succès sans précédent. Donc, à trouver chez AVH, à l'association Valentin Ahuy. Ici, au SQLA, on peut trouver Château Larnac. Château Larnac, petit résumé, par pure vanité, le richissime Californien Danny Roth décide de révéler à travers un portrait flatteur dans le Los Angeles Times les joyaux de sa cave, une des plus belles collections de grands crus classés au monde. Et quelques jours après, comme par hasard, l'apparition de l'article, sa cave est cambriolée. Sommé de lui verser plusieurs millions de dollars d'indemnité, son assurance est méfiante et demande à Sam Levitt, un ancien avocat, reconverti en détective privé et fin connaisseur de vin, de mener l'enquête. Alors Sam part donc en France, évidemment la patrie du vin, de la bonne chère, des jolies femmes, etc., etc. Et bien aidé par, vite aidé par une charmante collègue française, évidemment on la devine très belle, hein, eh bien il ne saurait rester insensible, notre aventurier gastronome, il va en même temps, il va remonter la piste de ces dites bouteilles et de leur étonnante valeur, il va entraîner le lecteur dans un délicieux itinéraire gustatif et sensoriel à travers la France. Il y a même une suite à ça et ça s'appelle « Embrouille en Provence ». Alors, « Embrouille en Provence » et « Château Larnac » qu'il faut d'abord avoir lu, du regretté Peter Mayle dont on a appris la disparition il y a maintenant quelques semaines à l'âge de 78 ans. Si vous voulez entendre chanter la France, si vous avez envie d'un bon pastis, si vous avez envie de vous retrouver dans le monde le pagnol, Oh, la pomponnette! Eh bien, alors plongez-vous dans du Peter Mayles. Alors, quelques nouveautés en rafale. J'ai manqué de temps la semaine dernière pour vous présenter les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, A-R-I-K-A-W-A. Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de Nana, son chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des amis d'enfance aux quatre coins du Japon pour lui trouver un nouveau foyer. Mais ce rusé Matou, narrateur de ce savoureux roman, ne l'entend pas de cette oreille. Il fera tout pour rester avec Satoru et prolonger l'aventure. Il y a une lectrice qui a lu le bouquin et qui a écrit « J'ai adoré ce livre et j'ai eu plus d'une fois le cœur serré et les larmes aux yeux. Certains passages m'ont carrément fait pleurer et pourtant l'auteur s'arrange pour nous montrer le beau côté des choses. Par exemple, Nana énumère toutes les merveilles qu'ils ont pu admirer, Satoru et lui, faisant ainsi naître mille images dans l'imagination du lecteur. Les champs où les pousses frémissent, la mer et son bruit lourd et effroyable, le mont Fuji de tout près, si près, la téléboîte si agréable pour s'asseoir, Madame Momo, une vieille dame charmante, Tomaramu, ou Toramaru d'ailleurs, au poil tigré, impénible mais sincère, le chat, l'immense ferry blanc et toutes les voitures qui l'avalaient dans sa gueule, etc., etc., etc. Les vastes paysages de Hokkaido, les fleurs jaunes et mauves pleines de vigueur au bord de la route, etc. Vraiment, c'est un très beau livre, à la fois poétique. Ce n'est pas un livre pour enfants, hein, mais il ne faut pas forcément aimer les chats pour l'aimer. Il faut peut-être aimer voyager. Par contre, je vous redonne le titre. Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Et je vous ramène au pays, à Amqui plus précisément, d'Eric Forbes, Amqui, à l'arrêt d'autobus, parce que ça commence, ce livre que je suis en train de lire d'ailleurs, ça commence devant la prison de Bordeaux. Il y a là un homme qui attend sous la pluie, il s'appelle Étienne Chénier, il est libraire, il a dans la mi-trentaine, il est né à Amqui, il est friand d'arts martiaux. Il a été condamné pour meurtre, et il vient d'être relâché bien avant la fin de sa peine. À la suite de tractations qu'on va qualifier de douteuses. Alors, il attend certes le bus, mais surtout le moment propice pour exécuter un plan de vengeance longuement mijoté. Dépêché à l'hôpital pour interroger un chauffeur de taxi libidineux qui s'est fait passer un tabac, voici aussi Denis Leblanc, un enquêteur au SPVM, bedonnant, alcoolique, dépressif. Rapidement, il porte ses soupçons sur Chénier autour de lui et autour de qui les cadavres s'empilent. Alors, comment un simple libraire a-t-il pu se transformer en tueur sanguinaire? Il va falloir lire Amqui d'Eric Forbes pour le savoir. « 117 Nord » de Virginie Blanchette Doucet. Et d'abord un petit extrait. « J'ai oublié ce que c'était d'avoir toute une maison pour soi. » J'ai oublié beaucoup de choses, le temps qui passe, l'heure qu'il est, des paysages entiers que j'absorbe et que j'efface aussitôt. J'ai oublié cette maison, le geste lourd d'une pelle mécanique vers la cheminée de briques, les fondations ouvertes et exposées aux intempéries. On n'a plus rien à faire du béton qui s'effrite, des poutres qui pourrissent. L'Abitibi est trop belle et trop dure. Alors, 129 kilomètres séparent Val d'Or de... Pardon, 529 kilomètres séparent Val d'Or de Montréal. Maude ne compte plus les allers-retours au volant de la tercelle turquoise que lui a donnée Francis. L'Abitibi, c'est la bille d'or qu'il faut extraire de la scorie. Montréal, c'est le grain du bois qu'il faut apprivoiser. Dans ce premier roman extraordinairement maîtrisé, nous dit-on, Virginie Blanchette Doucet montre comment les frontières de nos vies se redessine sans cesse à notre insu. Ça s'appelle 117 Nord. Tiens, puisqu'on parlait de policiers, alors là, le classique des classiques qu'on retrouve maintenant en version adaptée, c'est L'aiguille creuse de Maurice Leblanc. Un petit extrait. Au même moment, le brigadier de gendarmerie s'approchait de M. Filleul et lui remettait un morceau de papier froissé, déchiqueté, jauni, qu'il venait de ramasser non loin de l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M. Filleul l'examina, puis le tendit à Isidore Beautrelet, en disant « Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. » Isidore tourna et retourna le morceau de papier couvert de chiffres, de points et de lignes. Il s'agit là bien sûr du chef-d'œuvre d'Arsène Lupin, qui nous situe entre Rennes, plutôt deux Rennes en France, en Bretagne, jusqu'à Étretat, sur les côtes de la Manche, où l'on retrouve entre autres l'aiguille creuse, signée Maurice Leblanc. Et puis « L'amante de Molière » de Christiane Duquette, 17 février 1672, Madeleine Béjart s'éteint en laissant à son amoureux l'illustre dramaturge Jean-Baptiste Poquelin dit Molière une série de feuillets écrits à son intention où elle raconte avec nostalgie des épisodes marquants de leur existence, d'aventure en rebondissement, celle qui a été la compagne du plus grand auteur et acteur du royaume de France, lui fait le récit de ses premiers amours, évoque sa passion pour la scène et le surprend en lui confiant un secret de famille. Pour connaître ce secret de famille, lisez « L'amante de Molière » de Christiane Duquette. Alors voilà ce qui conclut l'émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier beaucoup mes invités André Vincent, André A. Michaud et Serge Brader. Remercier aussi mon ami Mathieu Tessier en régie. C'était Clotilde Saïe qui vous souhaite bonne semaine, bonne lecture.